Guernica, quand l'histoire devient un symbole, nous retrouvons Jean-Claude Laronde pour la seconde et dernière partie de cette conférence enregistrée au Musée basque de l'histoire de Bayonne le 14 décembre 2016. Jean-Claude Laronde est historien et président du Musée basque de l'histoire de Bayonne. Guernica, quand l'histoire devient un symbole, voici la seconde partie de la conférence de Jean-Claude Laronde.
Alors après ce sauvage bombardement d'une population civile, les répercussions furent très importantes. Malgré une intense propagande franquiste, un sentiment de colère et d'aversion se manifesta dans les pays démocratiques contre les responsables de cet acte de barbarie. Et l'émotion fut particulièrement vive en France, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique. Pour faire reconnaître au monde ce qu'il s'était réellement passé à Guernica, le rôle des correspondants de presse étrangers qui se trouvaient à Guernica, à Bilbao, fut capital. Or, il n'y avait que 4 correspondants de presse étrangers à Bilbao. Le travail et les récits de ces correspondants de presse étrangers ont été étudiés en détail dans un magnifique livre, livre de Herbert, de l'américain Herbert Southworth, qui a été publié en français, aux éditions Ruedo Ibérico en 1975, « La destruction de Guernica, journalisme, diplomatie, propagande et histoire ». L'un de ses correspondants va jouer un rôle particulièrement important, c'est George Stier du Times de Londres. Il apprend le bombardement à 8h30 du soir à Bilbao. Il se rend immédiatement à Guernica et il recueille des témoignages. Son récit, particulièrement bien documenté, paraît dans le Times le 28 avril sous le titre « La tragédie de Guernica ». Cet article est également repris dans le New York Times. George Stier va écrire sur la guerre civile au Pays Basque un livre remarquable qui est publié en anglais en 1938 à Londres, « The Tree of Guernica », qui constitue un des meilleurs ouvrages sur la période du gouvernement basque de 1936-37. Mais malheureusement, s'il existe une traduction espagnole de ce livre, il n'y a aucune traduction française de ce livre. Après Guernica, le peuple britannique saisit le danger. Sous la pression de l'opinion publique et de l'opposition libérale et travailliste, le gouvernement conservateur prend 2 décisions. Il décide d'accueillir 4000 enfants basques en Grande-Bretagne et il décide de protéger tous les convois chargés de l'évacuation par mer de Bilbao. En France, ont lieu notamment à Paris des meetings de protestation. Le rôle du chanoine Alberto de Onandia, qui était un proche du président Aguirre, est essentiel. Alberto de Onandia, c'était un prêtre, chanoine Alberto de Onandia, il était à Guernica le 26 avril 1937. 3 jours après, il est à Paris le 29 avril et c'est le premier témoin oculaire qui dénonce à la face du monde entier les auteurs du bombardement. Il est interrogé par plusieurs personnalités, au premier rang desquelles François Mauriac, et François Mauriac va s'avérer dès lors comme le défenseur le plus prestigieux de la cause basque. Jusqu'à Guernica, on peut dire que François Mauriac, profondément troublé par les événements d'Espagne, hésitait. Son biographe, Jean Lacouture, écrit « Pour le faire entrer décidément dans le camp républicain, il manque à François Mauriac une sorte de signe. Il en sera bientôt frappé. » Alors ce signe, évidemment, c'est Guernica. Cet événement, d'une importance extrême pour lui, lui fait sauter le pas, va changer radicalement sa vision de la guerre d'Espagne et va le rapprocher définitivement des Basques. À partir de ce moment, François Mauriac discerne clairement les menaces que font peser sur la paix du monde les dictatures fascistes, menaces qui se préciseront 2 ans plus tard et qui seront directement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. François Mauriac écrit dans ses mémoires politiques, je le cite, « Je fus conscient très tôt de ce que l'intervention d'Hitler et de Mussolini en Espagne, sans que la démocratie tente rien contre eux, décidé de notre destin et que nous n'éviterions pas un malheur immense. Dans l'Aube, l'Aube était un quotidien publié à Paris, démocrate chrétien, du 30 avril 1er mai 1937. L'éditorial de Georges Bidault a pour titre « Le martyr de Guernica ». Voici la fin de cet article de Georges Bidault. « Pendant 3 heures, les avions allemands ont bombardé cette bourgade sans défense. Pendant 3 heures, les avions allemands ont, dans les rues et dans les champs, tiré à la mitrailleuse sur les femmes et les enfants. Tout cela au nom de la civilisation, et même pour la croisade, comme on dit. » La guerre au Pays basque d'Espagne va désagréger les forces catholiques françaises. L'opinion publique catholique sur la guerre civile d'Espagne se scinde en deux. Un manifeste de protestation des catholiques français est publié par La Croix et l'Aube le 8 mai. Il a pour titre « Un appel à tous les hommes de cœur », parmi les signataires des noms très connus. François Mauriac, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Georges Bidault, Gabriel Marcel, Claude Bourdet. Ce manifeste déclarait « C'est aux catholiques, sans distinction de parti, qu'il appartient d'élever la voix les premiers pour que soit épargné au monde le massacre d'un peuple chrétien. Rien ne justifie, rien n'excuse les bombardements de villes ouvertes comme celui de Guernica. » Pour sa part, le philosophe Jacques Maritain lance en mai 1937 un comité français pour la paix civile et religieuse en Espagne, qui avait pour objectif de parvenir à une médiation en vue d'aboutir à la paix en Espagne. Dans les faits, ce comité jouait un rôle très important concernant l'aide humanitaire et l'accueil des réfugiés basques sur le sol français. Le soutien aux Basques devient une des activités les plus importantes de ce comité, qui est souvent appelé comité maritain. Mais il faut bien voir que ce courant catholique français, favorable aux Basques, s'il était animé par des personnalités d'un incontestable prestige, restait minoritaire et même très minoritaire par rapport aux forces politiques conservatrices françaises qui s'étaient rangées aux côtés du général Franco. Ainsi, de nombreux écrivains et journalistes prirent la plume pour diffuser en France les thèses de la propagande franquiste. Parmi les plus connus, les écrivains fascisants Maurice Bardèche et Robert Brasillach et les écrivains de droite René Benjamin, Paul Claudel, Claude Farrère. Ce dernier, Claude Farrère, écrit « La conduite des Rouges a été inqualifiable. Je suis allé à Guernica. J'ai la certitude que tout y a été détruit exclusivement par la dynamite. J'ai l'habitude de voir les choses de la guerre et je ne puis confondre la trace de quelques obus visibles avec la preuve matérielle de l'attentat à la dynamite et de l'incendie. » Dans son livre que j'ai cité tout à l'heure, l'écrivain américain, l'historien américain Herbert Southworth insiste sur le rôle plus qu'ambigu de l'agent Savas, agence de presse qui manipula toutes les nouvelles concernant Guernica. Devant cette carence flagrante de l'agent Savas, tous les journaux français qui voulaient informer leurs lecteurs sur ce qui s'était passé réellement à Guernica devaient le faire à partir des dépêches et des articles qui provenaient de Londres. En Pays basque de France, ici, les réactions sont mitigées. La grande majorité de la population, surtout à l'intérieur du pays, a été réceptive à la propagande franquiste et suit aveuglément son leader, le député Jean Ibarnegaray, qui, depuis le début du conflit, a pris fait et cause pour Franco. C'est ainsi que dans l'Escualduna, c'était l'hebdomadaire du clergé, rédigé en langue basque, bien le numéro publié après le bombardement ne fait pas mention de celui-ci. Le quotidien basque de gauche, Sud-Ouest républicain, est bien seul pour écrire « Guernica n'existe plus. Les barbares fascistes, dans leur haine à ce qui est grand, à ce qui est noble, à ce qui est sublime, ont détruit sauvagement Guernica, sanctuaire de la tradition et berceau du renouveau basque. » La polémique la plus violente eut lieu en Angleterre. Un débat eut lieu le 3 mai à la Chambre des communes. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement conservateur, Anthony Eden, dut répondre à plusieurs questions de l'opposition travailliste et libérale qui accusa ouvertement les Allemands d'être les auteurs de ce bombardement. Aux États-Unis, le sénateur Borah de l'Idaho fustigea le fascisme dans son discours du 6 mai 1937 au Sénat. Il s'écria « Une cité non armée, non combattante, fut choisie pour l'exemple le plus révoltant d'extermination massive des temps modernes. » Telle a été la stratégie fasciste. Pour Sassbourg, ce discours du sénateur Borah constitue la plus vigoureuse dénonciation de la destruction de Guernica jamais prononcée devant un Parlement. Bien entendu, il faut dire aussi, il faut relever que dans les pays qui étaient les alliés de l'axe Rome-Berlin, par exemple au Japon, eh bien, la nouvelle de la tragédie de Guernica est totalement passée sous silence. La controverse historique concernant les responsables du bombardement surgit dès le lendemain de celui-ci. Personne, en effet, ne voulait apparaître à la face du monde comme les auteurs de la destruction de Guernica. La position des nationalistes basques est affirmée dès le matin du 27 avril par le président José Antonio Aguirre dans une allocution à Radio Bilbao. José Antonio Aguirre déclare « Devant Dieu et devant l'histoire, j'affirme que durant 3 heures et demie, les avions allemands bombardèrent avec un acharnement inconnu jusqu'ici la population de la ville historique de Guernica. » Un manifeste du clergé basque est publié le 11 mai, signé par de nombreux prêtres biscayens, dont 10 témoins oculaires du bombardement lui-même. 2 signataires de ce manifeste sont dépêchés au Vatican pour parler de la situation tragique du peuple basque après ce bombardement. Mais le 30 mai, le cardinal Pacelli, c'est le futur pape Pie XII, qui après son accession au pontificat au début de 1939 allait se révéler très favorable aux franquistes, donc le cardinal Pacelli reçut formal, en sa qualité de secrétaire d'État, ses 2 représentants du clergé basque. Avant l'entretien, un envoyé du Vatican avait prévenu ces 2 prêtres qu'il ne convenait pas de parler de la destruction de Guernica. Et il ne fallait donner à l'audience aucune publicité. Le cardinal Pacelli reçut les 2 prêtres basques debout durant exactement 8 minutes, les laissant interloqués et au bord du désespoir. Dès le 28 août 1937, le Vatican reconnaissait de facto le régime de Franco. 3 jours auparavant, l'hebdomadaire des Pères dominicains, 7, publié à Paris et qui avait donné largement la parole au chanoine Alberto de Onlandia à propos de Guernica, reçut de Rome un télégramme qui lui disait qu'il lui retirait le droit de paraître. La position des franquistes fut fixée par des communiqués du bulletin officiel d'information de Salamanque. Dès la nuit du 27 avril, un communiqué indiquait que Guernica avait été détruite et brûlée par le feu intentionnel des Rouges. 2 jours plus tard, un autre communiqué niait l'existence d'avions allemands dans le camp franquiste. Et ce communiqué parlait aussi de l'impossibilité pour les avions de voler ce jour-là à cause de la météo. La presse franquiste attribua la destruction de Guernica aux Basques mêmes, au, je cite, « vandalisme rouge » et au, je cite toujours, « sadisme marxiste ». Or, on peut lire dans le journal franquiste La Voz de España du 29 avril, « Guernica est détruite par le feu et par l'essence. Les hordes au service criminel d'Aguirre, président de la République de Euskadi, l'ont incendiée et l'ont convertie en ruine. » Et le jour suivant, donc dans le journal franquiste La Voz de España, Guernica, on peut lire, Guernica a été détruite par les Rouges au service des séparatistes basques. Luis Bolin, le chef du bureau de presse de Franco à Salamanque, déclara pour sa part, les séparatistes basques avaient besoin d'un fait sensationnel. Ils dépêchèrent à Guernica des brigades de dynamiteurs asturiens chargés d'incendier et de faire exploser les bombes. Cela étant fait, ils assurèrent que la destruction était l'œuvre de la Légion Condor. Voilà, brièvement résumé, la version des franquistes maintenue pendant les 30 premières années qui vont suivre le bombardement. Commentant cette version, Alberto de Onandia écrivit « Ainsi, nous étions si dégénérés et criminels pour être capables d'enfermer nos femmes et nos enfants dans les caves de nos maisons et pour y mettre ensuite le feu, les condamnant à être la proie des flammes et être ensevelis sous les décombres de leur propre maison. Jamais on n'avait entendu une telle calomnie satanique. » Il faut savoir qu'après la prise de Guernica par les franquistes, les correspondants de guerre étrangers ne purent entrer dans cette ville que le 1er mai, soit 5 jours après le bombardement. Ce qui fallut du temps aux franquistes pour camoufler les trous des bombes, imprégner les murs d'essence pour faire croire à un incendie allumé depuis le sol, et aussi pour trouver des bons témoins capables de répéter devant les journalistes la version officielle qu'on leur avait préalablement apprise. Le comble du cynisme fut atteint en septembre 1939 lorsqu'un décret proclama l'adoption de Guernica par Franco. Il fut aussi atteint en février 1946, jour où Franco, à l'initiative du maire phalangiste de Guernica, fut déclaré citoyen d'honneur de Guernica, hijo adoptivo de la ville de Guernica. Encore en 1948, Franco continue à rejeter sur les Rouges la responsabilité des dommages. Il se rend à Guernica en 1948 et déclare que Guernica avait été brûlée et détruite par les Rouges eux-mêmes, qui, dans leur furie destructrice, ont cherché à rejeter la culpabilité sur les escadrilles allemandes. Sur cet acte d'incendie volontaire s'élève la nouvelle Guernica, la ville la plus belle d'Espagne. Dans les années 70, la controverse historique rebondira avec des auteurs que l'on peut qualifier de néo-fascistes, néo-franquistes. Avec des nuances, ces auteurs vont développer la thèse selon laquelle il y a bien eu bombardement à Guernica, mais que la responsabilité du bombardement incombe aux Allemands. Franco n'aurait pas été au courant. Parmi ces auteurs, donc néo-franquistes, on peut citer le colonel José Manuel Martínez, Ricardo La Sierba, qui va être l'historien quasi-officiel du franquisme, deux frères, tous deux généraux franquistes, Ramón y Jesús Salas Larrazábal, ou encore un autre écrivain, Vicente Talón, dans ses livres Arde Guernica, Guernica brûle, et El Holocausto de Guernica, donc publié de 1970 à 1987. Et ces positions donc, des néo-franquistes avaient été rendues inévitables par les confessions et aveux des Allemands eux-mêmes. Donc, en effet, au tribunal de Nuremberg, au procès des criminels nazis qui va se tenir de novembre 1945 à octobre 1946, le maréchal Göring avait déclaré « Guernica fut un banc d'essai pour la Luftwaffe ». C'est lamentable, mais nous ne pouvions faire autre chose. À l'époque, ces expériences ne pouvaient pas avoir lieu ailleurs. Il faut aussi noter qu'à ce procès, le gouvernement basque avait essayé, mais en vain, de faire juger la destruction de Guernica comme crime de guerre. Mais tous ces efforts furent inutiles. Les Alliés décidèrent que l'on allait juger les nazis seulement pour les crimes commis à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, mais pas avant. À partir de 1953, plusieurs officiers allemands, dont von Richthofen lui-même, le chef d'état-major de la Légion Condor, vont reconnaître que ce furent les aviateurs allemands qui détruisirent Guernica. Et encore aujourd'hui, on peut constater que la polémique se poursuit avec des auteurs pro-franquistes, dont le plus prolifique est sans doute Pio Moa, donc c'est un auteur actuel, avec entre autres ouvrages son livre « Los mitos de la guerra civile », Les mythes de la guerre civile, qui a été publié en 2003. Donc, si vous allez à Madrid, dans les librairies qui sont les grandes librairies qu'il y a près de la Puerta del Sol, eh bien, vous verrez des montagnes de livres, donc avec de cet auteur, Pio Moa. Hein, voilà. Et Pio Moa, on peut voir qu'il a une vision bien particulière. Je vais citer ce qu'il écrit, par exemple. Il est clair que le bombardement de Guernica est le résultat d'une décision personnelle de Richthofen, en contradiction avec l'ordre de Mola, qu'il avait un objectif militaire évident, qui n'a supposé aucune tentative spéciale de bombardement sur la population civile, ni ne prétendait à la destruction de la ville, qui n'avait aucune intention d'attaquer les symboles basques, et qu'il occasionna environ une centaine de victimes, au maximum 120. Il ajoute, et donc ça c'est la phrase qui va revenir, il est fascinant de voir comment un événement, sans doute terrible, mais non extraordinaire au sein du conflit, devint un des mythes les plus intenses, émotifs et démesurés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le mythe de Guernica atteint peut-être son point culminant. Le premier char de la 2e DB du général Leclerc, qui va rentrer dans Paris libéré en août 1944, porte le nom de Guernica. Le bataillon que forme le gouvernement basque pour réduire la poche allemande du Médoc et de la pointe de Grave prend le nom de bataillon basque Guernica. Il est intégré dans le régiment mixte marocain et étranger. Après les combats victorieux d'avril 1945, le général de Gaulle, venu en Médoc, passa les troupes en revue sur un petit aérodrome, l'aérodrome de Graillan, et il salua longuement le drapeau basque, les Coulignans, et il déclara au commandant du bataillon, Képor Doki, « Commandant, la France n'oubliera jamais les efforts et les sacrifices accomplis par les Basques pour la libération de son sol. » Le drapeau basque, les Coulignans, reçut la croix de guerre. Et le 26 avril 1945, on peut remarquer que c'est 8 ans, jour pour jour, après le bombardement de Guernica, le 26 avril 1945, le bataillon Guernica défila triomphalement avec toutes les autres forces de la brigade Carnot dans les rues de Bordeaux. Ce qui, incontestablement, contribua puissamment à faire acquérir à Guernica une dimension universelle, ce fut le tableau de Picasso, qui, pour beaucoup de critiques d'art, restera comme l'œuvre picturale magistrale du XXe siècle. Picasso lui-même a déclaré « C'est l'œuvre la plus importante de ma vie ». On connaît le mot fameux de Picasso. Quand un officier allemand, durant la Seconde Guerre mondiale, lui demanda s'il était l'auteur de Guernica, Picasso répondit « Non, c'est vous ». Picasso avait reçu en janvier 1937 une commande du gouvernement républicain espagnol en prévision de l'exposition internationale de Paris qui devait se tenir du 24 mai au 1er novembre 1937. Picasso était âgé alors de 54 ans. Et Picasso ne semblait guère déployer une grande activité pour honorer cette commande. Mais après le bombardement, exactement le 1er mai 1937, donc 4 jours après le bombardement, il se mit d'arrache-pied à l'ouvrage. Et le 13 juin, donc en moins d'un mois et demi, il avait achevé sa toile aux dimensions imposantes, 7,76 m sur 3,49 m. On peut remarquer que la toile est en noir et blanc, avec des tons de gris, rappelant les photos de Guernica détruites que Picasso avait vu dans les journaux de l'époque. Lorsque le pavillon de l'Espagne fut inauguré avec retard, le 12 juillet 1937, Guernica figurait en bonne place à droite de l'entrée. Il faut dire aussi que les avis sur la toile furent d'ailleurs, dans les premières années, assez partagés. Guernica voyagea, le tableau voyagea en Scandinavie de janvier à avril 1938, puis en Grande-Bretagne, fin 1938, début 1939. Le 1er mai 1939, Guernica arrive aux États-Unis. Il est exposé à New York et dans les principales villes des États-Unis. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que sa réputation internationale est établie. La toile se trouve à New York, au Museum of Modern Art, MoMA, jusqu'en septembre 1953. On peut la voir en Europe de 1954 à 1956 avant qu'elle ne revienne à New York. Le tableau a voyagé à 45 reprises, il a été roulé 88 fois, ce qui l'a fortement détérioré. En 1969, Picasso rappelle que le tableau appartient au peuple espagnol, auquel il sera restitué, dit-il, lorsque les libertés républicaines seront rétablies en Espagne, Et l'année suivante, en 70, il va préciser, il va remplacer liberté républicaine par liberté publique. Il va dire, lorsque les libertés publiques seront rétablies en Espagne. Picasso meurt en avril 73. Après la mort de Franco et le retour en 75 et le retour de la démocratie en Espagne, bien le 9 septembre 82, le tableau quitte New York pour Madrid, où il sera exposé, tout d'abord dans une annexe du Prado, dans le grand salon central du Casón del Buen Retiro, avant d'être transféré en 1992 au musée d'art contemporain Centro de Arte Reina Sofía, où il se trouve d'ailleurs. Donc depuis 1992, il est à Madrid au musée d'art contemporain Centro de Arte Reina Sofía. Et les Madrilènes vont rester sourds au désir des Basques de voir le tableau venir s'installer, même de façon temporaire, à Guernica ou à Bilbao. Ce sont des raisons, chaque fois, techniques, mauvais état du tableau, risque pour son intégrité, qui ont été invoquées jusqu'ici pour s'opposer à ce transfert. L'ancien président du Parti nationaliste basque, Xabier Arzayus, s'adressant aux Madrilènes, va déclarer « Nous, nous fournissons les morts, mais vous, vous gardez le tableau. » L'ensemble du tableau symbolise le désespoir et la douleur, l'horreur que représente le fascisme aux yeux des républicains. Le professeur d'esthétique Van Ansbergen, auteur d'un livre sur le tableau, écrit « Ce tableau est un cri contre la barbarie et tout le monde le comprend. Il nous parle à tous. » Pour lui, le message contenu dans le tableau traverse toutes les contingences et spécificités, les différences culturelles et géographiques, et même les barrières qui dépassent les générations. Un épisode dramatique en relation avec le bombardement de Guernica eut lieu le 18 septembre 1970 au fronton Anoeta de Saint-Sébastien, à l'occasion des 6e championnats du monde de pelote basque. Lors de la cérémonie d'inauguration, qui était présidée par le général Franco, dont Franco était présent, un homme, après s'être aspergé d'essence et avoir mis le feu, se lança depuis les galeries d'une hauteur de 8 mètres et tomba en flammes sur la cancha en criant « Gora Euskadi Askatuta, vive le Pays Basque libre !» Il s'agissait de Joseba Elosegui, originaire de Saint-Sébastien, qui était âgé, donc en 1970, de 55 ans. Il avait été témoin oculaire en 1937 du bombardement. Il était à peine âgé de 22 ans et il était capitaine d'un bataillon qui se trouvait au repos dans cette ville. Et Joseba Elosegui, avant son acte, avait laissé un manuscrit qui fut d'ailleurs publié quelque temps après son action dans Anoeta sous le titre « Quiero morir ». Mourir pour algo, je veux mourir pour quelque chose. Il y expliquait dans ce livre qu'il avait voulu rappeler au général Franco un de ses grands crimes, la destruction de Guernica. Les flammes qui brûlaient son corps étaient les mêmes que celles qui avaient brûlé à Guernica 23 ans auparavant. Joseba Elosegui survécut à ses blessures. Il fut élu plus tard, en 1977, député, puis en 1979, sénateur, sous les couleurs du Parti nationaliste basque, parti qu'il abandonnera plus tard pour le parti EA, Eusko Alkartasuna. Il est mort en 1990. Alors, dernière réflexion, c'est la rareté des lieux de mémoire à Guernica. On peut regretter qu'il n'y a toujours pas de grande œuvre monumentale à Guernica qui rappelle le bombardement. Le bombardement n'est évoqué que par deux sculptures, l'une du sculpteur anglais Moore et l'autre du sculpteur basque Chillida, toutes deux dans le parc des peuples d'Europe. Également, il y a le buste de George Stier, ce journaliste anglais enfin, d'origine sud-africaine qui a été inauguré en 2006, et par le musée de la paix, Bakearen Museoa. C'est un musée qui a été ouvert en 1998. C'est un musée intéressant, mais de dimension modeste. Il est à noter que ce musée se veut à la fois le musée de Guernica du passé, c'est-à-dire le symbole de Guernica, de ce que représente Guernica, le symbole de la liberté des Fueros, de la démocratie basque, et aussi le musée de Guernica du présent, c'est-à-dire la réconciliation, les droits de l'homme, le bombardement et le Guernica de Picasso. Alors, il faut, en conclusion, il convient de rappeler que pendant au moins 40 ans, la dictature franquiste a empêché un quelconque débat scientifique, politique et humain sur le bombardement. Pourtant, l'importance de ce bombardement est manifeste. Pour beaucoup, c'est le premier acte de la Seconde Guerre mondiale. Selon le mot de Churchill, Guernica fut une horreur expérimentale. La propagande franquiste, en niant l'évidence, a contribué à faire de Guernica un symbole. En ce XXe siècle, où se sont déroulées deux guerres mondiales et tant de guerres civiles et de conflits locaux, d'Holocauste et de Goulag, d'expériences de régimes totalitaires de droite ou de gauche, on peut dire que Guernica est le symbole de plus des tragédies dont a souffert l'humanité. Guernica, ville martyre donc, mais aussi, on l'a vu, ville d'histoire, ville sacrée, ville institutionnelle, ville symbole. Comme le dit le poète José María Iparraguirre, « Emanta sabal sasu munduan fruitoa », donnez et répandez votre fruit dans le monde. Le symbole de Guernica n'est pas limité au Pays basque. Il y a longtemps qu'il a dépassé les frontières de ce pays. Guernica, c'est bien sûr un symbole qui dit quelque chose au cœur de tout basque, mais c'est aussi et surtout un symbole universel, un symbole qui dit quelque chose au cœur de toutes les femmes et de tous les hommes du monde, épris de démocratie, de liberté, de justice, de tolérance et de paix. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Guernica, quand l'histoire devient un symbole, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Jean-Claude Laronde, historien et président du Musée basque de l'histoire de Bayonne, conférence enregistrée au Musée basque de Bayonne le 14 décembre 2016. Et nous nous quittons avec cette œuvre du compositeur basque Pablo Sorozabal, né en 1897 à Saint-Sébastien et mort à Madrid en 1988. En 1966, il signera sa fameuse marche funèbre de Guernica pour chœur et orchestre que nous vous proposons d'écouter.